Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Ilamot Daf Tevav à la 10e ligne. La question qu'on avait depuis hier, c'était de savoir est-ce que Beit Shammai avait appliqué leur enseignement, à savoir deux femmes qui étaient mariées, l'une des deux femmes est définie comme Erva, est-ce que la seconde, la concurrente, doit faire Iboum ou pas? D'après Beit Shammai, elle doit faire Iboum ou Khalitsa. D'après Beit Hillel, elle a le droit de se marier avec n'importe qui, sans faire ni Iboum ni Khalitsa. Tashma, Damar Bitafon. Un Bitafon fait partie du clan Beit Shammai. T'es Avni. T'es évané, ma tête à votre Tzaratabat l'a dit. Ouf, j'aimerais bien avoir un cas de Tzaratabat, c'est-à-dire, j'aimerais bien pouvoir marier la concurrente de ma fille, les ex-femmes de mon frère qui est décédé. Ve et Saena. Et comme ça, je vais me marier avec elle, et je vais donc marquer les esprits. On a le droit de faire Iboum, qu'on a l'obligation de faire Iboum avec la Tzaraterva, comme mes maîtres Beit Shammai. Donc on voit bien que c'est l'enseignement de Beit Shammai a été appliqué. La Gemma répond, Emma ve Asiena. Non pas me marier avec elle moi-même, Ve'asiena, mais la marier à quelqu'un d'autre. Et donc, je vais marquer les esprits de quelle manière? Puisqu'elle va se marier avec d'autres, comme la vie de Beit Hillel, c'est ça que je vais marquer les esprits. Ve'atevani, Kamar, la grande, oui, mais c'est rien de grandiose. Dit Tevani, j'ai très envie de le faire. Mais bon, c'est ce que tout le monde faisait, puisque tout le monde suivait Beit Hillel. Donc, tu vas marquer les esprits de personne, puisque tu fais comme le courant principal. Elle va répondre, la Fouke, mais Rabbi Khan ben Nouri. C'était pour exclure la vie de Rabbi Khan ben Nouri, qui a été ramené dans ce hamoud-là, en haut, et on l'a vu hier. D'après Rabbi Khanan ben Nouri, même d'après Beit Hillel, il y a une solution qui aurait dû être appliquée pour apaiser les esprits, pour que tout le monde fasse la même chose, c'est-à-dire que la Tzaraterva fasse Khalitsa, et donc d'après tout le monde, à partir de ce moment-là, elle aurait le droit de se marier avec n'importe qui. D'après Beit Shammai, il est évident, elle a fait Khalitsa, elle a le droit de se marier avec n'importe qui. D'après Beit Hillel, de toutes les façons, elle n'avait même pas besoin de faire Khalitsa. C'est ce que Rabbi Khanan ben Nouri avait proposé. Rabbi Tarfon a dit, moi j'espère avoir un cas comme ça, et lui permettre de se marier sans faire ce que Rabbi Khanan ben Nouri, c'est-à-dire sans lui demander de faire Khalitsa pour marquer, et c'est là que je veux marquer les esprits, non pas pour appuyer la vie de Beit Hillel, mais pour exclure la vie de Rabbi Khanan ben Nouri. Tashma ma'aseh bevito Rabban Gamliel shaitan esua la'bachiv. La fille de Rabban Gamliel était mariée avec le frère de Rabban Gamliel qui s'appelait Abba. Belobanim, Umet Belobanim, et ce frère décédé sans enfant. Vibem Rabban Gamliel et Tsarata, il s'est marié avec sa concurrente. Donc on voit bien que Rabban Gamliel a appliqué la halakha de Beit Shammai. Et Tisbera, Rabban Gamliel mitamide Beit Shammai. Quoi, tu veux dire que Rabban Gamliel il a appliqué parce que ça faisait partie des élèves de Rabban Gamliel? Rabban Gamliel c'est les petits-enfants de Beit Hillel Bichlan. Donc c'est évident qu'il n'a pas pu appliquer la vie de Beit Shammai. Elle a chané bitosh Rabban Gamliel d'Aïlonit Havaï. Puisque la fille de Rabban Gamliel était Aïlonit, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, elle ne peut pas faire Iboum. Et comme on va le préciser dans un instant, pour deux raisons, il est possible de dire que sa concurrente ne devrait pas faire Iboum. Elle ne fait pas Iboum. Et donc, sa concurrente doit, oui, faire Iboum. Et donc, ce qui s'est permis de faire Iboum avec la concurrente de sa fille, c'est pas parce qu'il pense comme Beit Shammai, c'est parce qu'il pense que sa fille, Bichlal, n'était pas prise en compte, c'est-à-dire que la concurrente n'est pas définie comme Tzara Terva. Hamid de Katane Sefa, Chayom, Rui, Mito, Shabon, Gamliel, Ayonit, Aïta, Bichlal, Delakama, Savar, Lavalonit, Aïta. Dans la fin de la Braïta, il est précisé que la raison pour laquelle Rabban Gamliel s'est marié avec la concurrente de sa fille, c'est parce que sa fille était Aïlonite. Donc ça veut dire que la raison pour laquelle Tanakama pense qu'il s'est marié avec sa fille, non pas parce que sa fille était Aïlonite, mais pour autre raison, apparemment d'après Beit Shammai. Donc on revient sur notre question, tu vois, enfin on revient sur notre preuve plutôt, que Beit Shammai ont appliqué leur Torah, les Maaseh, et on voit que Rabban Gamliel s'est marié avec la Tzara Terva comme penserait Beit Shammai. Et pour la Gemara, Hikirba velo Hikirba Ikabenayu. En vérité, dans Aïlonit, il y a deux raisons de permettre à la concurrente de se marier. Il y a un cas qui s'appelle Lohikirba, c'est-à-dire le mari défunt n'était pas au courant que sa femme était Aïlonit. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle était Aïlonit, et c'est donc une situation qu'on appelle Mekartaout. Moi, j'aurais jamais accepté de marier avec une femme si j'avais su qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc le mariage est annulé. Et donc, quand il est décédé, et qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut faire Iboum? Qu'est-ce qui nous empêcherait de dire à l'autre femme qui est en stand-by de faire Iboum? Elle est en vérité la seule femme mariée à ce défunt, et donc elle doit faire Iboum. Ça, c'est Lohikirba. Hikirba, c'est quand il était conscient, il savait avant le mariage, on lui a dit, cette femme ne pourra pas avoir d'enfant, il a quand même décidé de se marier avec elle, il ne peut pas venir 6 mois plus tard, ah ben je vais annuler le mariage. Et non monsieur, tu savais très bien que c'était ça le statut de cette femme-là, donc tu ne peux pas annuler le mariage. Donc elle est mariée en bonne et due forme, et c'est irréversible, il restera marié avec elle. La raison pour laquelle sa concurrente dans ce cas-là serait Khayevet de faire Iboum, c'est parce que cette femme-là, quand on est en stand-by de Iboum, elle ne rentre même pas dans la course du Iboum, sachant qu'elle est Aïlonite, et que tout l'intérêt du Iboum, c'est d'avoir des enfants, et qu'elle ne pourra jamais en avoir. Donc elle ne rentre même pas dans le pas, c'est pas ce qu'on appelle Nafla les Iboum, c'est-à-dire, littéralement, elle est tombée en Iboum. Non, elle ne rentre même pas dans la course. Et donc, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut se marier avec sa concurrente? Évidemment qu'on peut, puisque c'est la seule qui est en course, c'est la seule qui peut faire hiboum. Quand on a deux femmes qui sont en course de hiboum, et elles ne peuvent pas, une des deux ne peut pas faire parce qu'elle est erva, la seconde, et ptoura, comme Bet-Hilel nous a dit. Mais quand la première, bichlal, ça ne commence même pas, la seconde sera revêt de faire hiboum. Et donc, la Gemara nous dit que ikirba velo ikirba et kamenam. C'est-à-dire que quand on a deux explications à l'histoire de Rabban Gamliel, en vérité, tout le monde est d'accord que la raison pour laquelle il l'a fait hiboum avec la concurrente, c'est parce que la fille elle-même, Bito, la erva de Rabban Gamliel, était aïlonite. Mais est-ce que c'était quelque chose qui était connu de tous ou est-ce que ça n'était pas connu de tous? C'est là la machloket. Acherim nous disent aïlonite, aïta. C'était évident qu'elle était aïlonite et quand même Rabban Gamliel s'est permis de faire hiboum parce qu'il pense que l'aïlonite ne rentre même pas dans la course alors que Tanakama pense que personne ne savait qu'elle était aïlonite et le fait qu'on s'en est rendu compte, c'est ça qui l'a fait sortir de ce mariage, ce qui permet à sa concurrente de faire hiboum. Donc la raison pour laquelle il a fait hiboum, c'est pas parce que c'est Tsara Terva et d'après Beit Shammai c'est permis, mais tout simplement parce que la Tsara, la concurrente, est la seule sur le marché, est la seule qui peut faire hiboum. Veba etema. Autre raison, encore une fois, ça va être la même chose dans l'absolu. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme qui peut faire hiboum, c'est la Tzara. Pourquoi? Parce que la fille de Rabban Gamliel, elle a été divorcée. Et puisqu'elle a été divorcée, alors la concurrente doit faire hiboum. Ah bah alors c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rashbag? Kana Soulbassov Giresh. Est-ce que on permet à un homme de faire hiboum avec une femme qui est Tzara Terva? Quand cette erva a été à un moment mariée en même temps que celle qui est aujourd'hui en mode hiboum. On a deux femmes qui sont mariées avec le défunt. Si jamais cet homme s'est marié à deux reprises, une fois avec l'une, une fois avec l'autre, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que il n'y aura pas de définition de Tsara Terva. La femme qui est aujourd'hui en stand-by n'a jamais été mariée en même temps que la erva, et donc on peut faire hiboum. Mais si jamais les deux femmes ont été mariées au même moment, hein, ces deux femmes-là ont été mariées au même moment, là, on a une marloquette. Il y en a qui pensent que elle reste bien que le mari, avant son décès, a divorcé de la erva, l'autre est définie comme Tsara Terva, puisque la situation de mariage ensemble l'a définie comme Tsara Terva. L'autre avis pense, et on avait déjà vu cette marloquette, l'autre avis pense que non, à partir du moment où le moment qui décide, c'est non pas la situation du mariage, mais au moment du décès, et au moment du décès, les deux femmes n'étaient pas concurrentes, et donc à ce moment-là, on peut se marier avec la concurrente. Donc on a Tanakama qui pense que Kanas Lubasov Giresh n'est pas de problème, c'est-à-dire que le fait qu'elles étaient mariées ensemble n'est pas un problème en soi, et le frère a décidé de divorcer juste avant le décès, donc ça permet de faire hiboum avec la sœur, alors que Acherim pense, non, Aelonit Aïta, pourquoi? La raison que tu donnes n'est pas bonne, puisqu'elles étaient mariées ensemble, donc le divorce juste avant le décès, c'est pas suffisant. Il faut trouver une autre raison. Aelonit, annulation du mariage, etc. Ou alors annulation du mariage, ou alors le fait qu'elle est Aelonit, elle ne rentre pas dans la course, comme on a dit précédemment. Un homme qui marie sa femme par Bia, c'est-à-dire, on peut faire une kiddushin par Bia, par le rapport, par Kesef ou par Shtar. Et lui, il a fait un rapport, il a fait un mariage par Bia. Mais il a mis une condition. Je fais un mariage avec toi à condition que... Et au final, la condition n'a pas été remplie. Alors, est-ce qu'on va considérer que le Tnaï peut annuler les Kiddushin par Bia et donc ce rapport était un rapport de Znout ou pas? On a donc une marloquette. Est-ce que, dans ce cas-là, cette femme serait mariée ou pas? La fille de Rabban Gamliel, d'après Tanakama, c'était une fille qui avait été mariée avec condition. Et cette condition n'a pas été remplie. Et donc, d'après Tanakama, puisqu'elle n'a pas été remplie, mariage annulé. Puisque mariage annulé, la concurrente peut faire hiboum. D'après Acherim, non, c'est pas une bonne raison. Puisque le Tanaï, la condition qui viendrait empêcher un rapport d'être Kiddushin, c'est pas défini comme une bonne condition. Le rapport va finaliser le mariage et la femme est mariée. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec la concurrente? Parce que elle était aïlonite. Donc au final, on a évité de rentrer dans la marloquette Beit Shammai et Beit Hillel d'après les trois réponses. La raison pour laquelle Rabban Gamliel s'est marié avec la Tzara Terva n'est pas parce qu'il pense comme Beit Shammai, c'est parce que sa fille, de toutes les façons, ne pouvait pas faire hiboum. Pour quelle raison elle ne pouvait pas faire hiboum? Ça peut être aïlonite, ça peut être qu'il a divorcé avant le mariage, avant le décès, ça peut être que la condition n'a pas été remplie. Pour toutes ces raisons, on pense que la femme, donc, n'était pas, la Bito n'était pas dans la course elle était bichlal pas mariée. Et Acherim pense que Aelonit Aïta, c'est-à-dire, elle était mariée, mais elle était Aelonit, et c'est pour ça que Elle non plus ne peut pas faire Iboum, elle ne peut pas faire Iboum, c'est pour ça que la concurrente doit faire Iboum. Donc, on n'a pas de preuve que la Torah de Beit Shammai a été appliquée par les élèves de Beit Shammai, surtout que Rabban Gamliel faisait partie de la famille de Beit Hillel. Metiv Rav Mesharashia. On avait vu hier, il y avait Marloket, est-ce que Beit Shammai a sous holo, c'est-à-dire est-ce que Beit Shammai ont impliqué ce qu'ils avaient, appliqué ce qu'ils avaient, ce qu'ils pensaient. Ari, il est marqué. Masé Berabi Akiva. Sheliket Etrog Bechad Beshvat Venagbo Shnei Surim. Rabbi Akiva a récolté un Etrog Rosh Chodesh Shvat et il a fait Shnei Surim. On a vu cette Marloket de plusieurs endroits ensemble. Dans Souka, je ne me rappelle plus d'autres, ou autres, pardon. Donc, il a fait deux Isurim. Echad, qui dit Rabbi Shammai, et Echad, qui dit Beit Hillel. Chaque année, on a une définition Maaser Sheni ou Maaser Ani. Un prélèvement qui va être consommé à Yerushalayim ou qui doit être donné aux pauvres. Ça dépend. Le fruit est défini par rapport à, ça dépend de quelle année il se trouve. Maintenant, comme il a fait le premier Shvat, et il y a le Marloket entre Beit Hillel et Beit Shammai au sujet de, dans Marloket Rosh Hashanah, on a dû le voir dans Rosh Hashanah. Quand est-ce que Rosh Hashanah, là, il annote, est-ce que c'est le premier Shvat ou le 15 Shvat? Donc, ce fruit, en vérité, il peut être ou de l'année dernière ou de l'année prochaine. Ça dépend comme qui je suis possèque. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait deux Isurim. Donc, on va voir, je crois, un sou. Donc, on voit bien que la Torah de Beit Hillel a été, de Beit Shammai, a été appliquée. Si Rabbi Akiva a été mahmir de faire comme Beit Shammai, si jamais personne ne faisait jamais comme Beit Shammai, pitom que Rabbi Akiva va être mahmir de faire aussi un second maaser, forcément, c'est qu'il y avait, oui, un mouvement, il y avait, oui, un courant de faire comme Beit Shammai, et Rabbi Akiva a été mahmir. La Gemara réfute cette preuve, elle dit comme ça, Rabbi Akiva, Gemara est avec les... En fait, Rabbi Akiva avait un problème sur les données. C'est pas qu'il avait les deux avis clairs et il a décidé de suivre les deux avis. Il ne savait pas qui avait dit quoi. Est-ce que Beit Hillel avait dit Rosh Chodesh Shvat ou est-ce qu'il avait dit Tu Bishvat? Et c'est pour ça que pour accomplir l'avis de Beit Hillel, il a fait deux maaser pour être tranquille avec Beit Hillel. Mais ça ne veut pas dire qu'il cherchait à appliquer les paroles de Beit Shammai. Il est marqué Maaser Velda Kalatosh El Shammai Zaken ou Pichet et Tamaziva. La belle-fille de Shammai a eu un enfant et Shammai est venu et a découvert le toit au-dessus du lit du bébé. Vesiker algabe amita et il a mis du srar sur l'enfant. Mishui la katan, ça on l'a vu dans ma Maaser Tzuka, ça c'est évident. Shmamina, donc on voit que Asu, donc on voit que Shammai et Shammai ont appliqué leur halacha. Atam haroe omer la pouche avir kavid. La Gemara nous dit c'est pas une preuve parce que bien que Beit Shammai faisait comme Beit Hillel, mais quand ça dérangeait personne, on pouvait appliquer leur Torah elle-même. Pourquoi? La poussée à Virkavid, Stam, il voulait, au lieu d'avoir une chambre fermée, il voulait avoir un endroit aéré. Donc, c'est pas quelque chose qui va marquer les esprits, qui va déranger. Pourquoi est-ce que vous faites comme Beit Shammai alors qu'on doit faire comme Beit Hillel? Beit Hillel Zutra, Maaseh Beshoket Yehu Shaita Birushalayim. Donc, c'était une pierre. Je vais Aïta Nekouva la Mikve. Il y avait un trou qui reliait cette pierre à un Mikve. Et grâce à ce trou, l'eau des deux endroits était reliée, ce qui permet de faire, de tremper dans cette choquette-là, dans cette pierre. Vehol tarot shegurushaim nasim al-gaba. C'est-à-dire que tout celui qui mangeait quelque chose bêta-ara, il allait tremper ses ustensiles dans cet endroit-là. Vechalchou Beit Shammai ve'erchivoua. Beit Shammai n'était pas content, ils ont élargi le trou, puisque eux pensent, Beit Shammai omrim, achetipachet beruba. Il faut que la majeure partie du mur qui sépare les deux sources d'eau soit détruite. Donc, on se suffit pas d'un petit trou, il faut une énorme ouverture. Utnan, il est marqué dans la Mishnah que iruv mikvaot, pour associer deux mikvot, comme on a dit précédemment, il faut que je fasse faire un node beovia ou bechalala. Donc il faut qu'il y ait que je fasse faire un node. Node, c'est comme une paille qu'on mettait dans un. C'est comme une paille qu'on mettait dans un tonneau ou autre pour pouvoir sortir le liquide. Donc ça, c'est la chauffeurette. Un node. Node, c'est cette. C'est pas le tonneau, c'est plutôt une gourde. Donc cette hauteur et cet espace. On avait déjà vu ensemble qu'il fallait pouvoir entrer deux doigts qui tournent dans tous les deux sens. Et donc, c'est suffisant d'après Beit Hillel. On a une pierre qui est reliée à un mikvé. Pour définir qu'on peut utiliser cette pierre-là, on a deux possibilités, ou comme Beit Hillel ou comme Beit Shammai. Ou un trou avec l'épaisseur de deux doigts, ou alors il faut que le rov du mur soit détruit. On voit que Shammai sont partis et ont appliqué leur halakha. Ils ont demandé à élargir le trou. Donc on voit bien que Shammai a ce qui est dit vrai. Atam, la Gemara dit, Aroé Omer l'a poussé Maïa ou les Kavid. Encore une fois, sachant que personne, ça dérange personne, puisque ça ne veut pas dire que c'était pour forcer et installer leur point de vue à l'Achik, mais tout simplement pour permettre qu'il y ait plus d'eau qui arrive dans cette choquette. C'est pour ça qu'on a ouvert le trou. Donc, ça dérange personne d'appliquer la Lacha comme Beit Shammai dans ce cas-là. Tashma. J'étais une fois chez Rabbi Yochanan Ohani et j'ai vu qu'il avait un pain sec pendant les années de sécheresse. Donc il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Bati vodati et taba. Donc je suis parti dire à mon père, le pauvre, c'est la catastrophe chez lui. Amarli, il m'a dit, olech lozetim. Donc il lui a dit, vas-y, tiens, donne-lui des olives pour qu'il mange. Olach tilo, je lui ai amené. Raotan, shehen lachim. Il les a vus humides. Et dans tout ce qui est fruits, pour être perméable à la touma, il faut un hercher, c'est-à-dire, il faut qu'elles aient été mouillées avec l'intention de les mouiller pour qu'elles deviennent perméables à la touma. Et donc quand il les a vues mouillées, il a eu peur. Il a dit, bon, maintenant qu'elles sont perméables à la touma, peut-être qu'elles ont été tamées. Amarli, en ani ochel zetim. Il m'a répondu gentiment, je ne mange pas d'olives. Bati volati et taba. Donc j'ai dit, voilà, papa, il ne mange pas des olives. Amarli, l'herve morlo, chavit, nekuva, ita, et lâche, stamua, shmarim. En vérité, ces olives ne sont pas mouillées stam. Elles sont mouillées parce qu'elles étaient dans un tonneau qui était troué, mais qui avait été bouché par des shmarim. Et alors, des shmarim, c'est des résidus comme ça, des olives. Tlan, chavit, shelzetim et gulgalim. Donc, on a des olives qui sont dans une chavit qui ont été mélangées avec du sel pour un peu les ramollir. Bet shamemrim et tsichalinakev. On n'a pas besoin de la trouer. Je vais expliquer tout de suite. Bet shamemrim et tsichalinakev. Quand on va mettre ces olives dans un endroit fermé, forcément, il va avoir du jus qui va couler des olives. Est-ce que ce jus est défini comme un jus de fruits ou comme de l'huile? S'il est défini comme de l'huile, l'huile fait partie des sept liquides qui peuvent rendre un ustensile, un fruit perméable à la touma. Si par contre c'est défini comme méperote, comme un jus de fruits, ça ne rend pas cet ustensile perméable à la touma. Et donc, d'après celui qui pense, et d'après Beth Hillel, que ce liquide peut rendre le fruit perméable à la touma, comment est-ce que je vais anticiper pour que le fruit ne soit pas perméable à la touma? Je fais un trou. Quand je fais un trou, je montre que je ne suis pas intéressé à ce que ces olives soient remplies de ce liquide. Et donc, un fruit qui a été mouillé de manière inintentionnelle n'est pas perméable à la touma. Un fruit qui est dehors, il pleut, ça ne m'intéresse pas. Et dans ce cas-là, le fruit il n'est pas perméable à la touma. Donc on a deux possibilités d'expliquer pourquoi est-ce que ces fruits ne sont pas perméables à la touma. Ou alors, d'après Beth Shammai, ce liquide est défini comme méperot, comme un jus de fruits. Ou alors, d'après Beth Hillel, il faut faire un trou. Il lui a dit comme ça, sache, ou Beth Hillel, modim. On va d'abord terminer la braïta, ou modim, j'ai mikva. Si jamais j'ai fait un trou. Donc, j'ai montré que j'ai aucun intérêt dans ce liquide, puisque j'ai aucun intérêt dans ce liquide. Donc, les fruits ne sont pas perméables à la touma. C'est à moi, shmarim. Au final, ça s'est bouché. C'est du jus d'olive, c'est de l'huile d'olive, c'est assez épais. Ça a bouché le trou. Dans ce cas-là, chez Itéor, j'ai pas besoin de revenir faire un trou. Il suffit que je fasse une hatsara. C'est-à-dire que je montre clairement que je ne suis pas intéressé par ce liquide et c'est suffisant. Ah, au final, c'est trempé, c'est trempé. Va, falpi, chez Talmid, Shama, Yaya, Kolma, Sablo, Asala, Kedivre, Betilel. Donc, bien que, Rabbi Tzadok, donc celui qui a envoyé les olives, était un élève de Shamaï, mais il avait toujours fait comme les paroles de Beth Hillel. Donc, avant de continuer la preuve de la Gemara, il lui a expliqué, sache que tu peux manger ces olives. Elles sont imperméables à la touma. Tu sais pourquoi? Parce que, d'après Beth Hillel, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elles ne soient pas imperméables à la touma. C'est-à-dire, j'ai percé, et ça s'est bouché, et c'est pour ça que c'est mouillé. Je dis la Gemara, il y a Marbishlama Asu. Si tu me dis qu'en général, les autres élèves de Shammai avaient... les autres élèves de Shammai appliquaient la Torah de Shammai à El Mourevousse. Je peux comprendre quel est le chidouche de me dire que Rabbi Tzadok, qui était un élève de Beth Shammai, il faisait quand même d'après Beth Hillel. La Yamart Lo Asu Mayrevouta. Si tu me dis que de toutes les façons, personne ne faisait comme Beth Shammai, alors je vois pas pourquoi tu me dis, tu applaudis Rabbi Tzadok qui faisait comme Beth Hillel. C'est évident, c'est comme ça que tout le monde faisait. Donc on voit de là que Beth Shammai faisait appliquer leur enseignement à Sou, et Rabbi Tzadok lui a dit à Rabbi Yochanan Acholrani, sache que moi j'ai fait comme Beth Hillel, c'est exceptionnel, tout le monde fait comme Beth Shammai, moi j'ai fait comme Beth Hillel, j'ai fait un trou, ça s'est bouché, et donc tu peux consommer tranquillement ces olives. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Assou. Tâche moi encore une preuve que Beth Shammai Assou, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué ce qu'ils pensaient. Shalot Rabbi Yochua, Tzara Tabat Mahou. Dis-moi, est-ce qu'on peut se marier avec Tzara Tabat? Donc il y a deux femmes, une qui est la fille, une qui est la concurrente, est-ce qu'on peut se marier avec la Tzara? Amar Lahem, Marloket Beth Shammai Beth Hillel. Il leur a dit, c'est une marloket. Alachak divremi, chazak, et là alachak comme qui? Amar Lahem, Ipnema, Atem Achnasim, Roshi, Ben Shinarim, Udolim. Pourquoi est-ce que vous me demandez de rentrer ma tête entre deux montagnes, Ben Shammai Chloket Gdolot, entre deux grands avis, Ben Beth Shammai Beth Hillel? J'ai pas envie de trancher entre ces deux avis. Mitiareni, j'ai peur d'être posé comme Beth Hillel, à savoir que cette femme ne peut pas se marier avec son beau-frère, elle doit se marier avec n'importe qui d'autre. Pourquoi? Shema Yarutsu Gul Golti. De peur qu'ils vont venir exploser mon cerveau. Donc ils vont venir me frapper. Donc ceux qui ont les enfants de ces femmes qui se seront mariées avec leur beau-frère, qui ont fait iboum comme Beth Shammai, si je suis possède comme Beth Hillel, eux, on va voir quel est leur statut, mais en tous les cas, ça va les déranger, et eux vont venir me tirer les oreilles. Bien que je ne vous donne pas de réponse, je vais vous dire qu'il y a deux familles qui habitent Yerushalayim. Mishpachat Beth Tzuvim, Miben Achmai, Mishpachat Beth Kupai, Miben Mekoshesh. Donc, leur nom et d'où est-ce qu'ils venaient. Shehem Bnei Tzarot. Donc, ils sont les enfants de Tzarat Erva qui se sont mariés avec d'autres personnes. En vérité, on aurait accompli là, d'après Beth Hillel, leur aurait permis de se marier avec n'importe qui, de ne pas se marier avec leur beau-frère. Ou Mehem. Et de ces familles-là, il y a des Kohanim Gdolim, Veshimshu Al-Gabe Mizbehar, qui étaient au service du Beth Amikdash, et Beth Shammai n'a pas relevé, n'a rien dit à ce sujet. Donc voilà, il aurait dit, vous voyez, d'après les enfants qui sont nés de cette union permise seulement d'après Beth Hillel, ça a créé des enfants qui sont Kohen Gadol, qui ont été acceptés par tous. Yamar Mishlama Asu, si tu me dis que Beth Shammai ont appliqué leur Torah, Ayenu de Kamar, Mitiariani. Donc, je comprends pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua avait peur. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué, on a des centaines de familles, ou des dizaines, on a quelques familles, dont on a dit aux femmes, mesdames, vous ne pouvez faire que hiboum, elles ont fait hiboum, et puis quelques années après, quelques générations après, vient Rabbi Yoshua et dit, mesdames, vos enfants sont tous pas saouls, on va voir, pas saouls, ma maison, on verra. Donc c'est pour ça qu'il avait peur de cette réaction, il va rendre tous ses enfants, rétroactivement, il va les rendre pas saouls, et là il y a Marthe, Loasou, mais si de toutes les façons, Beth Shammai, ils n'ont pas appliqué ce qu'ils pensaient. Et là, ils ont fait comme Beth Hillel, à savoir, permettre à cette femme de se marier avec quelqu'un d'autre, mais surtout pas avec son beau-frère. Amaïk, Amaïk, Mitterrani, de quoi t'as peur? Bah, de toutes les façons, tout le monde se conduisait comme Beth Hillel. Et là, forcément, ceux de Shammai se conduisaient comme ils pensaient être la halakha. Et on voit donc que, donc ils avaient oui appliqué. Et donc, on a encore une preuve que Shammai assou. L'agma nous dit, je comprends pas très bien. Bon, on est d'accord avec toi que, apparemment, ces femmes-là se sont mariées avec leur beau-frère. Maï Mitiriani. De quoi avaient-ils peur? Ah, Marabi Yoshua. En Mamzer, et là, Mechaïve Miton Bedin. On a déjà vu trois avis à ce sujet. Mais c'est le troisième, en vérité. C'est le troisième. Qu'est-ce qui va faire qu'un enfant est Mamzer? Est-ce que c'est, Chayave Karet? C'est-à-dire, une liaison interdite par un Karet? Est-ce que c'est Chayave Lavim, comme Rabbi Akiva, une liaison interdite par un Lave? Ou est-ce que c'est Chayavé Miton Bedin, une liaison qui est punie par la mort? Il y a donc Rabbi Yoshua pense que seule une liaison qui est interdite et qui est punie par la mort va créer un mamzer. Or, une belle-sœur qui se marie avec son beau-frère, c'est Karet, c'est Echetar, c'est Echetariv. Et donc, c'est Karet, et puisque c'est Karet, il n'y a pas de mamzer. Et donc, d'après Beth Hillel, d'après Beth Shammai, mesdames, vous devez faire iboum. D'après Beth Hillel, surtout ne faites pas iboum. Donc d'après Beth Hillel, ces femmes qui n'avaient pas le droit de faire iboum et qui se sont mariées avec les beaux-frères n'avaient pas le droit de se marier avec leurs beaux-frères. Les enfants sont les enfants d'une liaison interdite par un karet et non pas punis par mitat bedin. Et donc les enfants ne sont pas mamzer. Donc de quoi avait peur Rabbi Yoshua? Pourquoi est-ce qu'il avait peur de s'exprimer? Que peut-être il allait se faire tirer les oreilles? De toutes les façons, ces enfants ne sont pas définis comme mamzer. On répond. Mais il avait des mamzer, lui avait. C'est vrai. Ils ne sont pas mamzer. Pagum mihave. Mais pagum. Ils sont oui, c'est-à-dire, si c'est des filles, elles ne peuvent pas se marier avec des kohanim. Mais almana, un kalvachomer de almana, une almana, une veuve est interdite de se marier avec un kohen gadol. Le kalvachomer, il n'est pas complet, mais dans quelques lignes, on le verra complètement, on va quand même traduire les mots de la Gemara. Malmana, chez Enisurano et Gbakol, si déjà une veuve qui n'est pas interdite à tout le monde, puisque la veuve est interdite qu'au kohen gadol, alors, bna pagum, c'est-à-dire que son fils ne peut pas, bna ubita, ses enfants sont pagoum à la keona. Donc, quand l'interdit est plus grave, zo, chez Isura, chez Bakol, cette femme qui est interdite à son beau-frère, comme n'importe quelle femme qui est interdite à son beau-frère, n'est-ce pas que son fils aussi serait pagoum? Et donc, c'est vrai que moi, Rabbi Yoshua, je vais pas définir ces gens-là comme mamzerim. Ils se sont mariés avec les beaux-frères, ils avaient pas le droit de le faire. C'est vrai, ils seront pas mamzerim. Mais ils seront pagoum à la keona, ils seront interdits de keona. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua avait peur de se prononcer. Il ne voulait pas annoncer à certaines personnes qu'ils étaient pas sous le Kehuna. La Gemara nous dit, sur la question, sur l'échange de Rabbi Yoshua et des gens qui l'ont posé la question, il y a un délai, il y a un décalage. Kabaim, il est tsarot. Et kapachit, il est tsarot. Nous, on est venu te demander, Est-ce qu'on peut se marier avec ces femmes? Et toi, tu me dis, vous savez, les enfants, ils étaient bien. Mais les enfants, même d'après Beth Shammai, qui interdit à cette femme-là de se marier avec n'importe qui, il devait faire Yiboum. Quand elles sont parties se marier avec n'importe qui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une liaison interdite par un lave. Mais une liaison interdite par un lave, ça fait ni chaud ni froid à personne. L'enfant est cachère. L'enfant, c'est sûr qu'il n'est pas mamzer, à part Rabbi Akiva qui vit de côté, mais c'est sûr que quand Rabbi Yehoshua leur a répondu, je vois pas le grand chidouche. Nous, on te posait la question sur la mère, est-ce qu'on a le droit de se séparer avec elle? Toi, tu me dis, l'enfant, il est cachère, il n'est pas mamzer. C'est évident que l'enfant, il est cachère, il n'est pas mamzer, même d'après Beth Shammai, il n'est pas mamzer. Tarenté Kabaim, il est. On lui dit qu'on lui a posé deux questions. Tsarot Mai. Est-ce qu'on peut se marier avec la Tsara Terva? Mis à part ça, on lui a posé la question. Mais tu me dis seulement Tsarot que Beth Hillel. Si tu penses que l'Alaha, au sujet de la Tsara, c'est comme Beth Hillel, à savoir, on peut se marier avec elle, Bnei Tsarot de Beth Hillel et Beth Shammai Mahou. Ces femmes qui sont parties se marier avec quelqu'un d'autre. Et d'après Beth Shammai, elles n'avaient pas le droit de le faire. Est-ce que les enfants sont cachés ou pas? Mais il y en a comme là. J'ai pas compris ce quoi l'Angel Agma, je comprends pas l'impact de la question. Arrête, ça nous dérange pas de savoir ce que Beth Shammai pense par rapport à la situation que Beth Hillel a créée. Non, on va d'après Beth Hillel. Donc d'après Beth Hillel, c'est moutard. C'est moutard. L'Agma explique. Tu as raison. Les Mufshat, Vlad, Marzir, Grouchato, les Beth Hillel. La question n'est pas de savoir dans ce cas-là, mais dans un cas qui ressemblerait. Sachant que la femme qui était, d'après Beth Shammai, destinée à faire Iboum, d'après Beth Hillel, elle n'a pas le droit de faire Iboum, elle doit se marier avec quelqu'un d'autre. D'après Beth Hillel, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit faire Iboum. Donc cette femme-là, quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle transgresse un lave. Cette situation d'une femme qui transgresse un lave, donc une femme qui a un rapport puni par un lave, quelle est la définition de ses enfants par rapport à la Kehouna? C'était là la pertinence de la question au sujet des enfants, non pas au sujet des enfants dans ce cas précis, puisque de toutes les façons, on va d'après Beth Hillel, et Beth Hillel permet à cette femme de se marier avec n'importe qui, les enfants sont cachés à la Méhadrine, dans un cas qui serait similaire dans la définition, ses enfants d'après Beth Shammai, ben c'est les enfants nés d'une liaison interdite par un lave. Quelle serait la halakha dans ce cas-là pour nous? Ah, mais ça ne change rien dans ce cas-là, c'est vrai, mais ça me change dans un autre cas. Si jamais une femme a une liaison interdite par un lave, est-ce que ses enfants seront pénalisés d'une manière ou d'une autre? Donc, les Mufshat Vlad Marzir Grouchato, les Beth Hillel. Marzir Grouchato, c'est ce gars qu'on a vu précédemment, un homme qui était marié, qui a divorcé, cette femme s'est mariée avec un autre homme, marié, kiddushin et tout, et nisouin, c'est-à-dire la totale. Elle divorce ou elle perd son second mari, et elle revient vers son premier mari, c'est interdit, c'est un lave. L'enfant qui est né de cette liaison, est-ce que d'après Beth Hillel, il est cachère ou pas? Est-ce qu'il a le droit est-ce qu'il est cachère les Kehouna ou pas? Mika Amrinan Kalvar Homer, est-ce qu'on va faire un Kalvar Homer? On a donc trois femmes. On a Almana les Kohen Gadol, celle qui le Kalvar Homer qu'on a ramené tout à l'heure. Une Almana, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, elle n'a pas le droit de le faire. On a une belle-sœur qui se marie avec son beau-frère. D'après Beth Hillel, elle n'aurait pas le droit de le faire puisqu'elle est de Tsara Terva. Et on a Marzir Grouchato, qui est Marzir Grouchato, c'est-à-dire celui qui récupère son ex-femme alors qu'elle était mariée au milieu. Dans ces trois femmes-là, l'interdit de se marier avec elle, c'est un lave. Est-ce qu'on va apprendre de Almana les Kohen Gadol pour tous les cas de figure? Mika Amrinan Kalva Chomer, est-ce qu'on va dire Kalva Chomer Uma, Almana les Kohen Gadol, She'en Issura Shaveh Bakol, si déjà la veuve qui va se marier avec un Kohen Gadol, c'est un interdit spécifique. Il y a un homme sur terre à qui elle est interdite, c'est au Kohen Gadol. Mais sinon, elle est permise à tout le monde. Donc, son interdit, entre guillemets, il est assez léger. Bena Pagoum, cet enfant est Pagoum. Donc, il ne peut pas, il est pas, il peut pas se marier avec un Kohen. Par exemple, si c'est une fille, il peut pas se marier avec un Kohen. Donc, Zo, chez Issura, Shaveh Bakol, la femme qui va se marier avec le Marzir Grouchato, c'est-à-dire celui qui va se marier avec son ex-femme. Donc lui aussi, Elodine chez Blapagoum. Donc puisqu'ils ont transgressé un lave, et même un lave léger a créé une situation d'un enfant Pagoum, un enfant problématique par rapport à la Kehouna, plus forte raison, un lave qui est plus grave, que ce lave va créer ce genre de statut. Odilma et Kalem Efrach, ou alors peut-être que non. Ma le Almana, Shehi Atzma Mitralelet. Si déjà l'Almana elle-même, elle est Mitralelet, c'est-à-dire que elle, à partir de ce moment-là, cette femme-là, elle est interdite, elle a créé à travers cette liaison un interdit nouveau. Cette femme est veuve. Avant de se marier avec le Kohen Gadol, elle a le droit de se marier avec n'importe qui. Avec n'importe qui, ça inclut même les Kohanim. Quand elle a eu un rapport avec le Kohen Gadol, elle est devenue interdite à un Kohen standard aussi. Donc cette liaison a créé chez elle quelque chose de nouveau, lui a créé un nouvel interdit. Ma almana shehi atzma mitralelet. Donc dans le cas de veuve, elle va quand même passer elle-même une transformation. Et donc, c'est quelque chose d'assez, c'est une roumra, alors que Marzir Grouchato, la liaison avec son ex ne va rien créer, puisque cette femme était divorcée de son premier mari. À ce moment-là, elle était déjà interdite à tous les autres Kohanim. Quand elle s'est mariée une seconde fois avec lui, après s'être mariée avec un autre homme, ça va rien créer de nouveau. Donc il n'y a pas de, elle-même ne va pas changer le statut. Donc peut-être que le Kalvachomer n'en est pas un Kalvachomer. Il faut que aussi déjà dans le Kal, c'est comme ça, dans le Chamour, c'est plus forte raison que c'est comme ça. Sauf que ici Almana les Kohen Gadol, c'est plus Chamour. Et donc on a un Safek au sujet de Marzir Grouchato. Donc c'était ça leur question. Et donc on ne savait pas comment définir cet enfant. Amar lehem, tsarot, mityariani. Donc au sujet de la sujet des tsarot, c'est-à-dire, je ne peux pas vous répondre pourquoi, parce que j'ai peur que les enfants qui seront nés de cette union-là, qui est interdite, et cette fois faites bien attention, c'est un interdit puni par un karet, puisque c'est Echet Achiv, et donc je peux affirmer que ces enfants vont être pagoum, c'est ce qu'on savait, que ces enfants sont pagoum, comme on a dit tout à l'heure. Et le Kalvachomer va rester en place. Le Kalvachomer, il est bon. C'est sûr que dans ce cas-là, on va dire que les enfants sont bgoumim. Donc, c'est pour ça qu'à ce sujet, je vous réponds pas au sujet des enfants. Par contre, au sujet des tsarot eux-mêmes. Par contre, Bnei Tsarot, animei lachem. Au sujet de Bnei Tsarot, c'est-à-dire non pas celles qui ont fait iboum, mais celles qui ont fait chalitza, animei lachem. Donc, on lui a posé deux questions et il a répondu d'une manière évasive sur l'une en donnant un sous-entendu et l'autre il a répondu clairement. Qu'est-ce que tu penses toi au sujet de ces femmes qui ont fait iboum? Ah, je me tais. Je ne veux pas vous dire ce que je pense au sujet des tsarot, est-ce qu'elles doivent faire iboum ou pas, parce que les enfants sont pas goum les kiouna, ils vont venir me tirer les oreilles. Par contre, celles qui n'ont pas fait iboum mais celles qui ont fait khalitza comme est-il, qu'est-ce que tu penses? J'ai pas envie de vous répondre aussi, mais je vous dis que les enfants de ces femmes-là étaient mariés avec des Kohen Gadol. Donc les femmes qui sont des femmes qui, même d'après Beth Shammai, auraient transgressé un interdit de lave, ne créent pas un pgam. Donc au final, Almana les Kohen Gadol, eh ben son fils est pas goum. Une Yevama qui ne devait pas faire iboum, son fils est pas goum. Mais une femme qui a une liaison interdite punie par un lave comme Marzir Grouchato ou comme cette Tsara d'après Beth Hillel, son fils n'est pas goum. Tashma, bimer Rabbi Dossa ben Arkina, sutra tsarat abat leachin, shma mina asu shma mina. Il est marqué que, au temps de Rabbi Dossa ben Arkina, utra tsarat abat leachin, comme Beth Shammai. C'est-à-dire qu'on a permis, de se marier, tsarat abat avait le droit de se marier avec les aux frères. Donc, shma mina asu. Donc, on apprend de là. Oui, l'enseignement de Beth Shammai a été appliqué, shma mina. Donc, on a conclu ce sujet-là. Beth Shammai ont oui appliqué ce qu'ils pensaient. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc on est toujours dans la question de savoir est-ce que ce qui avait été enseigné par Beth Shammai avait été appliqué. Rabban Gamliel qui attendait d'avoir une tsaratabat, pardon, Rabbi Tarfon qui attendait d'avoir une tsaratabat, c'était pour lui permettre de se marier comme Beth Hillel, donc il n'y a pas de preuve que Shammai ont appliqué. Rabban Gamliel qui s'est marié avec tsaratabat, c'est parce qu'il y avait une raison de mettre sa fille hors circuit, parce qu'elle était haïlonite, ou parce qu'elle était divorcée, parce qu'il y avait une condition avec Kiddushin. Et donc, dans tous ces cas-là, c'est pour ça qu'on a le droit de se marier avec Tsara Tabat. On a vu d'un côté, on voulait ramener des preuves dans l'autre sens, à savoir que ça, oui, était appliqué, puisqu'on voit que Rabbi Akiva avait été marmire de faire Maaser comme Beth Shammai comme Beth Hillel. Donc, on voit que oui, c'était appliqué. On a réfuté. Non. C'était tout simplement parce que Rabbi Akiva ne savait plus qui avait dit quoi. Shammai qui avait fait un srach au-dessus de son petit-fils, c'est parce que ça dérangeait personne, ça donnait l'impression simplement d'être pour que ce soit plus aéré. Le mikvé qui avait été le trou qui séparait les deux sources d'eau qui avait été élargi de comme la ville de Beth Shammai, ça aussi ça dérangeait personne que ça soit appliqué puisque ça donnait simplement l'impression de pouvoir permettre un mouvement d'eau plus rapide. Rabbi Tzadok qui a dit sache que j'ai fait un trou dans la chavit dans laquelle il y avait des olives et c'est pour cela que ce liquide-là n'est pas ne rend pas les fruits perméables. Donc Rabbi Tzadok qui lui était comme Beth Shammai, ça voulait dire que les autres faisaient comme Shammai et lui c'était exceptionnel. Donc on avait une preuve que sous Rabbi Yoshua, on lui a posé la question au sujet de Tsara Tabat et il n'a pas voulu répondre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu répondre? En vérité, on lui a posé deux questions. On lui a posé la question est-ce qu'on a le droit de se marier avec ces femmes-là? Est-ce que nous on a le droit de se marier avec ces femmes-là? Et est-ce que si elles ont fait iboum, qu'est-ce qui se passe? Au sujet de se marier avec ces femmes-là, il a dit non, je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas vous répondre parce que ça va. Au sujet du hiboum, de ceux qui avaient fait hiboum avec ces femmes-là, je ne veux pas vous répondre parce que ceux qui ont fait hiboum avec ces femmes-là, comme Beth Shammai, risquent de me tirer les oreilles. Pourquoi? Parce que les enfants, dans ce cas-là, seraient bgoumim. Au sujet de ceux qui se sont mariés avec ces femmes-là sans faire hiboum, c'est-à-dire les autres, Alors, dans ce cas-là, je vais vous ramener une preuve que certains étaient les descendants de ces femmes qui n'avaient pas fait Yiboum et étaient Kohen Gadol. Donc, on voit de là, en tous les cas, que Assou, puisque Rabbi Yehoshua avait peur de la réaction des descendants de ceux qui étaient nés par un Yiboum validé par Beit Shammai. Et au final, on a ramené encore une preuve où Bémet, on a vu que Assou, on a permis à Tzara Tachim de se marier. Donc, on voit que l'enseignement de Shammai a été appliqué. D'affecter Baruch Hashem. N'oubliez pas de faire Hazara et faites Hazara pour ne pas oublier. Et à demain, Bezrat Hashem.